Bonsoir. Parler de travail, c'est pas très original en ce moment, on en parle beaucoup, mais lorsque nous avons préparé cette émission, on ne parlait pas du travail, sauf les difficultés des entreprises pour recruter. Mais on ne se posait pas la question pourquoi certains emplois avaient des difficultés de recrutement. Bon, un peu les salaires, ça c'est clair, mais on ne se posait pas beaucoup de questions sur les conditions de travail. Le confinement a amené à se poser la question de la place du travail dans la vie. En 2022, en 1990, pardon, 60% des Français jugeaient que le travail était très important dans leur vie. En 2022, ils ne sont plus que 21%. Alors, on cite les emplois non pourvus, les difficultés de recrutement, la désertion des jeunes ingénieurs, plus globalement, la désertion des jeunes. Pourtant, l'emploi des jeunes atteint son plus haut niveau depuis 1991. Le débat sur les retraites aurait pu ouvrir aussi celui du temps libre, des loisirs, de la place de la culture et le lien entre travail et temps libre. Le travail ne serait plus émancipateur, le temps libre formateur. Pourtant, le Front populaire orchestrait en même temps travail et loisirs. Au Royaume-Uni, une expérimentation à grande échelle de la semaine de 4 jours vient de se tenir, et ce serait plutôt positif. Meilleure gestion du temps par les salariés, organisation vie professionnelle et vie privée plus facile, sans préjudice pour la productivité et même au contraire. Plusieurs entreprises en France ont instauré cette organisation. Il ne faudrait-il pas plutôt poser la question du sens du travail? Thomas Coutreau et Coralie Pérez, dans un livre, citent 3 critères: l'utilité sociale du métier, la concordance avec ses valeurs morales, la possibilité d'apprendre des choses nouvelles. Est-ce que ce n'est pas aussi le moment de se poser la question des inégalités femmes-hommes, les inégalités salariales qui impactent aussi les pensions de retraite? Mon invité pose ces questions et pour cela, il analyse différentes organisations du travail, ce qu'il appelle le travail moderne. Moi, lorsque j'étais étudiante, on appelait ça le travail prescrit. Il nous expliquera si c'est pareil. Et le travail qu'il appelle expressif des nouvelles organisations. Donc, en première partie, il nous expliquera le travail moderne et en deuxième partie, le travail expressif. Alors, mon invité, Anthony Husneau.
Bonjour, merci pour votre invitation. Je suis Anthony Husneau, je suis professeur des universités à l'université Côte d'Azur et j'étudie l'évolution du travail, l'évolution des organisations et l'évolution de la place du travail dans notre vie.
Ce qui est tout à fait ce que je posais comme question dans mon introduction. Alors, vous parlez du travail moderne. Alors d'abord, on appelait ça le travail prescrit. Donc, est-ce que, bon, de ce que j'ai vu, ça, c'est un peu une évolution de ce qu'on a appelé le travail prescrit?
Alors, ce que j'appelle le travail moderne, c'est le travail tel qu'il a été défini au début du XXe siècle, même en partie au XIXe siècle.
Ce qu'on a appelé le fordisme?
Ça renvoie également, exactement, ça renvoie au fordisme, ça renvoie au taylorisme, ça renvoie voilà, à ces formes de travail qui sont définies avec le développement de l'industrie, principalement dans les pays occidentaux.
Et donc vous dites que le travail est organisé comme une machine. On demande aux travailleurs de fonctionner comme la machine.
Ce que je dis, c'est que au début du XXe siècle, ce sont avant tout des ingénieurs qui se sont intéressés au mode d'organisation du travail. Et ces ingénieurs ont eu une approche du travail qui était très mécanique, en divisant les tâches, en isolant chaque tâche les unes par rapport aux autres, en les réarticulant ensuite. Et donc, on a demandé aux travailleurs de se comporter comme des machines, en réalisant des tâches prédéfinies. En réalisant des tâches identiques, toujours d'une certaine façon. Donc, ce que j'appelle le travail moderne, c'est ce travail qui consiste à réaliser des tâches comme le ferait finalement une machine.
Et donc ça pose la question de la hiérarchie qui en fait est là que pour contrôler le respect des procédures.
Alors, au début, effectivement, hein, la hiérarchie était là pour contrôler, pour administrer, planifier. Et c'est qu'ensuite, hein, au fur et à mesure de l'évolution, notamment de l'économie et des activités, que la hiérarchie a pu jouer d'autres rôles. Mais vous avez tout à fait raison, la hiérarchie au début du XXe siècle, avait principalement pour rôle le contrôle des travailleurs.
Alors on dit que la France est désindustrialisée, donc il y a les grands secteurs, c'était l'automobile, et puis après, dans le temps, il y a l'agroalimentaire qui aurait pris un peu sa place sur ces tâches très organisées, avec des procédures très claires, et puis avec aussi tout le mal-être au travail, les maladies qui résultent de ces formes de travail aussi.
Alors, effectivement, hein, la France a connu, la France et la plupart des pays occidentaux, en fait, hein, ont connu une forte désindustrialisation dans les années 70, 80, 90, créant d'énormes problèmes de chômage, d'énormes problèmes sociaux, hein, dans des régions entières. En France, on peut penser au nord de la France, à l'est de la France. Et pour laisser place à une économie de service, à une économie dite post-fordiste, à une économie plutôt de service, et ensuite, un peu plus tard, à une économie dite de la connaissance. C'est-à-dire, grosso modo, une économie qui repose avant tout sur la création d'idées et d'innovations. Ce qui est intéressant de constater, c'est que malgré l'évolution assez profonde de la nature de notre économie, on a conservé en grande partie les pratiques de travail issues de l'ère industrielle. Et donc, en fait, on hérite de pratiques de travail qui ont été développées à l'ère industrielle, encore aujourd'hui, alors que notre économie a profondément évolué. Et je crois qu'une grande partie du malaise que connaissent les travailleurs vient de ce décalage entre des pratiques de travail qui ont été développées au début du XXe siècle et une économie qui exige des façons de travailler, de se coordonner, de collaborer différentes.
Même les emplois de bureau à cette époque-là étaient très prescrits, très organisés. On parlait des grands poules de dactylo où il n'y avait aucune autonomie, aucune prise d'initiative possible par le salarié, même sur le bureau.
Oui, tout à fait, c'est ce que vous avez appelé le travail prescrit, hein. C'est-à-dire c'est le travail qui est défini dans la fiche de poste, c'est les tâches qui sont définies par un supérieur hiérarchique auquel le travailleur doit se conformer. Après, il y a toujours une différence entre le travail prescrit et le travail réel, c'est-à-dire les activités telles qu'elles se réalisent très concrètement. Et c'est souvent dans cette différence entre le travail prescrit et le travail réel qu'on va trouver finalement des marges d'autonomie. Hein, finalement, tous les travailleurs ont besoin et finissent par trouver des petites marges d'autonomie parce que, tout simplement, pour réaliser les tâches qui sont prescrites, ils ont besoin d'improviser un petit peu, de bricoler, d'inventer des outils. Et tout ça, ça n'a pas forcément été prévu dans la fiche de poste.
Et les ergonomes, à l'époque, disaient que c'est là qu'il y a le vrai travail, dans cette marge entre le prescrit et le réalisé.
Oui, alors en tout cas, c'est le travail tel qu'il se réalise concrètement, c'est ça, quoi. C'est ça le vrai travail,
c'est tel que le travail est réalisé.
Ouais.
Alors, après tout ça, il y a aussi le développement de l'automatisation. Donc l'automatisation qui, d'un côté, simplifie le travail, disons, les tâches, mais d'un autre côté, a un impact sur les emplois eux-mêmes, sur les compétences mises en œuvre.
Alors l'automatisation, c'est déjà une histoire qui est assez ancienne. On parlait du secteur de l'automobile. Dans le secteur de l'automobile, on a commencé à automatiser dès les années 50. Donc en fait, aujourd'hui, l'automatisation qu'on observe n'est que la continuité, hein, d'un processus qui a démarré il y a déjà plusieurs décennies. Et l'automatisation vient effectivement soit remplacer des tâches qui étaient réalisées par des humains, et en même temps vient modifier profondément la nature des activités. Et parfois, tout simplement, vient supprimer des emplois. Ça réalise des tâches à la place des travailleurs, soit ça modifie la nature des tâches des travailleurs, ou soit ça remplace certains travailleurs.
Oui, et donc là se pose la question de tous ces emplois-là qui ont disparu, et donc des personnes qui assuraient, puisqu'on dit ça remplacer, mais c'est remplacé par des emplois souvent beaucoup plus qualifiés. Et ça pose la question de la place dans la société des personnes peu qualifiées, finalement. Comment elles s'insèrent dans tout ce dispositif ?
Alors, En plus de cette automatisation, il faut ajouter la robotisation qu'on connaît actuellement. Et je fais une distinction entre automatisation et robotisation qui me semble être importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est devant des évolutions technologiques d'une nature différente. On n'a plus uniquement des outils qui sont capables de se substituer au travail humain, mais on a des outils, et notamment à des tâches mécaniques, hein, mais on a des outils qui sont capables, notamment avec l'intelligence artificielle, qui sont capables d'apprendre et de prendre des décisions. Donc on a des outils qui sont capables d'apprendre en temps réel, en scannant leur environnement, en allant chercher dans des bases de données, qui sont capables à partir de là de prendre des décisions et de réaliser des actions situées, des actions contextualisées. Et ça, c'est radicalement différent de l'automate hein, que l'on connaît dans les usines, qui ne fait que répéter des tâches qui sont prescrites, hein, qui sont pré-inscrites dans l'outil.
Mais là, on ne s'adresse pas au même... c'est pas le même type de tâches qui sont réalisées dans les deux cas, disons. Là, on est sur des tâches qui sont plus des tâches intellectuelles, de la connaissance, quand même.
Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est sans doute l'un des grands changements à venir, c'est-à-dire que l'automatisation a avant tout remplacé des tâches qui étaient prédéfinies, hein, qui étaient réalisées par des humains. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on a des outils qui sont capables de remplacer des tâches créatives pour lesquelles on a besoin d'apprendre, on a besoin de prendre des décisions. Et ça, je crois que ça entraîne une évolution très différente. Et sans doute qu'on ne mesure pas encore l'impact que ça peut avoir sur le monde du travail et plus largement sur la société, en fait.
On est vraiment sur des missions, j'allais dire, complètement différentes. Donc on est passé du stade du travail, ce que vous appelez travail moderne, l'industrialisation, l'industrie, en fait. Et puis là, maintenant, on est quand même plus dans ce qu'on appelle l'économie de la connaissance.
Oui, c'est ça.
Ces robots là, c'est les robots que vous pouvez revenir sur les robots, parce que les robots, c'est lié donc à l'intelligence artificielle, parce qu'on emploie le mot robot sans bien savoir du coup qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi.
Oui, alors c'est, bon, c'est vrai que le mot robot est utilisé à toutes les sauces, hein, j'ai envie de dire. Hein, dans votre cuisine, vous avez un robot. À la télé, on voit des robots un peu partout. Non, moi, ce que j'appelle robot, j'ai une définition un petit peu, je crois, un petit peu plus précise de la notion de robot. Ce que j'appelle robot, ce sont des instruments, des outils qui sont capables d'apprendre et de prendre des décisions et de réaliser des actions contextualisées. C'est ça que j'appelle robot. Et c'est ça qui, je crois, et c'est cette révolution-là qui est devant nous. Mais pour revenir sur la désindustrialisation et l'économie de la connaissance, le grand problème auquel nous faisons face, c'est que nous avons encore de nombreuses entreprises qui sont aujourd'hui dans l'économie de la connaissance, mais dont l'organisation interne, hein, et dont la façon de manager est issue de l'ère industrielle, par exemple avec une obligation de se rendre dans un bureau à 9h du matin, alors que vous travaillez sur un ordinateur et que votre métier consiste à créer du contenu, par exemple. L'obligation de travailler un certain nombre d'heures par semaine, 4 jours, 5 heures, 5 jours par semaine. Tout ça nous vient de l'ère industrielle. Or, aujourd'hui, on a une économie qui est radicalement différente, hein, on l'a dit, mais on a aussi des collaborateurs qui sont différents. Les collaborateurs sont mieux formés. C'est plus de 50% maintenant des classes d'âge qui ont accès à l'enseignement supérieur. Donc, on ne peut plus manager des collaborateurs qui sont passés par l'enseignement supérieur de la même façon que l'on manageait des ouvriers qui n'étaient pas du tout qualifiés au début du XXe siècle.
Accord à côté sur.
Et donc, il y a quand même, se pose aussi donc, du coup la question, disons, les gains pour la collectivité, de cette automatisation, bon, on voit bien, on remplace les tâches les plus pénibles, les plus dures, mais maintenant de ce robot, quoi, parce que à côté de ça, bon, vous le développez plus dans la deuxième partie, on verra, mais à côté de ça, la question du sens va se poser, du sens du travail. Alors, il y a quand même des emplois qui vont être préservés, sous ce qu'on appelle les emplois du cœur, ce qu'on a applaudi à 20h, hein, ceux qui sont les premiers de corvée, comme on disait, et ces emplois, donc, ils vont rester. Et est-ce qu'ils sont... La question, si je me demande, c'est que est-ce que dans ces nouvelles organisations, dans ce nouveau monde du travail, ils ne seront pas encore plus dévalorisés que ce qu'ils sont maintenant, alors qu'il faudrait, à notre sens, plutôt les revaloriser. Et on a l'impression que se trouver à côté de la machine, en gros, j'allais dire, ça va les dévaloriser encore plus.
Je ne sais pas si ces emplois risquent d'être davantage dévalorisés. En revanche, je crois que ces emplois ne sont pas en danger. Hein, par rapport à d'autres emplois, notamment tous les emplois dont l'essentiel des activités consiste à traiter de la donnée, je crois que ces emplois sont en danger. En revanche, tous les emplois pour lesquels, enfin, tous les métiers aussi, pour lesquels il s'agit de s'occuper des personnes, de créer des expériences pour les personnes, je crois que ces métiers ne sont pas en danger. Alors, ça va, bien évidemment, du soin, le soin médical, l'infirmière, bien sûr, à également des métiers plus inattendus, par exemple, le serveur. Le serveur, lui, n'est pas en danger. En tout cas, je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que le serveur, ce qu'on ne lui demande pas, ce n'est pas uniquement de faire des bons cafés, mais c'est aussi de proposer une expérience au client. Et c'est une expérience qui est sociale, c'est une expérience qui est sensorielle à travers une ambiance dans un café. Et finalement, on se rend compte que ça, on ne peut pas le remplacer par des machines. Il n'y a rien qui pourra remplacer l'atmosphère qui est créée par un serveur dans un café. Et il n'y a rien qui pourra remplacer le regard bienveillant, le sourire de l'aide-soignante, de l'infirmière, du pompier, etc. etc.
C'est toujours ce mépris, j'allais dire. On a longtemps méprisé ce qu'on appelait les emplois manuels. Et maintenant, il semble qu'on méprise quand même aussi tous ces emplois-là.
Oui, on les méprise. Et je crois que la Covid nous a montré que c'est une erreur. C'est une erreur de mépriser ces métiers-là. C'est une erreur de mépriser ces gens qui sont derrière ces métiers. Parce que lorsqu'on fait face à des gros problèmes, bah, ce sont ces gens-là dont on a besoin. On s'est rendu compte que ce sont ces gens-là qui permettent de tenir la société debout. Hein, qui permettent de tenir la société, j'ai envie de dire, presque en vie, alors qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont peut-être plus secondaires, disons.
Et là, alors, ça pose la question de la hiérarchie. Vous dites que vous êtes dans une hiérarchie plus aplatie. Mais au contraire... On verra surtout dans la deuxième partie avec le cas du télétravail où il y a des expériences qui montrent qu'au contraire, le salarié est encore plus pisté, encore plus contrôlé, même des logiciels qui vont dire à quelle heure il s'est levé. Voilà, donc il y a quand même une discordance entre ce que le salarié il espère d'une autre organisation et puis dans les faits, comment ça se passe.
Les hiérarchies ont tendance à s'aplatir, c'est-à-dire qu'il y a de moins de niveaux hiérarchiques. Parce qu'on a un besoin d'innovation. On a besoin d'innover, en fait. On est dans une économie qui est tirée par l'innovation. Et pour innover, on a besoin de laisser davantage d'autonomie aux équipes, aux collaborateurs. Et pour ça, on est obligé de supprimer quelques niveaux hiérarchiques. Donc, en fait, cet aplatissement des hiérarchies ne se fait pas par humanisme, mais plutôt par souci de rentabilité économique. Ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Donc, on peut se retrouver dans des situations très paradoxales, c'est-à-dire avec des hiérarchies qui s'aplatissent, de l'autonomie qui est davantage conférée aux travailleurs, mais en même temps, des dispositifs de contrôle qui émergent et qui rendent la vie des travailleurs extrêmement compliquée. Les deux, malheureusement, ne sont pas incompatibles. Et c'est souvent devant des situations assez paradoxales comme ça qu'on... que les travailleurs doivent continuer à travailler, quoi.
Alors, nous retrouvons après un peu de musique.
Je revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail, et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail, ce quelqu'un s'ennuyait. Je revenais du travail et seul me retrouvais. Je revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail, ce quelqu'un s'emportait. Je revenais du travail et seul me retrouvait. On m'enlevait mon travail, plus seul je me sentais. Je recherchais le travail, là, plus tout seul j'étais. Je recherchais du travail, où je suis, il faisait. Je renonçais au travail, qui alors m'ignorait. L'appartement de taille, à être intimidant. Pour l'homme seul me poussait, à chercher du travail. Qui maintenant m'attend. Et m'attendra longtemps. Qui maintenant m'attend. Et m'attend. Et m'attendra longtemps.
Je recherchais du travail. Nul autre n'y croyait. Je recherchais du travail. Pas assez snob j'étais. Je renonçais au travail.
Tu dors trop.
Il faisait.
Bonsoir, donc Michel Murator, nous nous retrouvons donc pour un alter regard avec Anthony Husseneau pour parler du travail. Alors, tout d'abord, je vais vous demander pourquoi vous avez choisi ce morceau. Vous avez trouvé un morceau qui parle de travail. Je ne savais pas qu'il y en avait dans les radios, tout ça.
Je trouve que c'est un beau morceau. Dominique A est un bel auteur, compositeur. Et je crois que c'est un morceau qui illustre assez bien finalement la tension, la difficulté qu'il y a dans le travail, comment articuler le travail avec la vie privée et comment le travail peut être source de souffrance, notamment pour l'activité elle-même, mais aussi en dehors de la vie professionnelle, et comment les souffrances du travail peuvent rejaillir sur la vie tout court.
Voilà, alors dans la première partie, nous avons abordé ce que vous appelez le travail moderne, et puis vous dites qu'on est passé du travail moderne, je simplifie je crois, hein, mais on va le développer, à ce que vous appelez le travail expressif. Expressif au sens où le salarié peut mieux s'exprimer.
Alors ce que je dis dans le livre, l'idée que je propose dans le livre, c'est de comprendre le monde du travail comme un continuum. D'un côté, il y a le travail moderne, c'est-à-dire le travail qu'on a appelé tout à l'heure plus ou moins un travail qui est très prescrit, hein, dans lequel finalement le travailleur a des marges d'autonomie qui sont assez faibles. Et de l'autre côté, il y a le travail expressif. C'est un travail, une activité professionnelle dans laquelle les travailleurs peuvent avoir une liberté quasi totale de création. Et on peut prendre deux figures extrêmes pour illustrer ce continuum. C'est que d'un côté, du côté du travail moderne, on aurait l'ouvrier à l'usine au début du XXe siècle. Et de l'autre côté, on aurait l'artiste bohème, hein, qui serait un peu la figure caricaturale du travail expressif. L'artiste bohème du début du XXe siècle, là aussi, pour son art, est prêt à tout sacrifier.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre l'organisation du travail et du temps de travail et l'organisation de la réalisation de la tâche ? Parce que sur la réalisation de la tâche, on est toujours dans, je dirais, du prescrit. Mais par contre, on a dans l'organisation de son temps, tout ça, une plus grande liberté.
Oui, et si vous voulez, je pense que en tant que travailleur, on se situe tous plus ou moins entre ces deux extrêmes du continuum. Notre travail n'est pas totalement prédéfini, hein, mais il n'est jamais totalement libre. Et donc, on est toujours dans ce va-et-vient entre ces deux extrêmes. Hein, on essaye de trouver un équilibre, et comme on est entre les deux, eh bien, il y a des tensions. Il y a des tensions, il y a toujours des contraintes économiques, des contraintes sociales, mais en même temps, il y a des marges d'autonomie qui sont possibles. On doit satisfaire un client, mais en même temps, on veut pouvoir s'épanouir au travail. Vous voyez? Il y a une hiérarchie, il y a des règles, mais en même temps, il y a des possibilités d'expression.
Est-ce que c'est pas là qu'on retrouve ce que disait dans Thomas Coutreau que je citais sur la concordance avec nos valeurs? Est-ce que c'est pas ça aussi qui permet d'être bien dans ces emplois où effectivement c'est pas très clair, on est à la fois autonome, à la fois contraint, et si ça correspond à nos valeurs? Parce que est-ce que c'est pas ça qui fait aussi que tous ceux qui ont démissionné, comme on dit actuellement, c'est ce problème par rapport à leurs propres valeurs?
C'est vrai qu'on fait face à de nouvelles attentes par rapport au travail. Et je crois que ça, c'est assez récent. Et je crois qu'on n'a pas encore vraiment compris hein, qu'on est en train de changer d'époque et que de plus en plus de personnes ne souhaitent plus travailler uniquement pour travailler, mais souhaitent travailler pour pouvoir participer à quelque chose qui leur semble bien. Alors bien sûr, après, chacun a sa définition du bien, mais c'est un petit peu ça l'idée générale. Et donc, la notion de valeur devient de plus en plus importante. Est-ce que ce que je fais est utile? Est-ce que ce que je fais correspond à mes valeurs? Est-ce qu'en travaillant dans telle entreprise, est-ce que en manageant tel type de personne, je fais des choses qui sont en phase avec les valeurs que j'essaye de défendre? Surtout, enfin, d'autant plus dans un contexte de crise climatique, de crise sociale, dans lesquelles notre responsabilité est engagée, en fait.
Oui, et donc là, ça pose la question du management. On parle, il n'y aura plus hiérarchie, mais du management des salariés. Bon, c'est quand même des salariés avec l'obligation de rendre. Voilà, ce management des salariés là est complètement différent.
Il peut l'être,
il
mais,
devrait,
mais.
Ou il devrait l'être.
Ah, il devrait l'être,
il
vous
devrait
avez raison.
l'être, plutôt.
Il devrait l'être, il peut l'être. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours ce qu'on observe sur le terrain, j'ai envie de dire. Hein. Il y a encore énormément de managers, et ce n'est pas forcément une question de génération d'ailleurs, énormément de managers qui ont une approche du management qui est ancrée dans ce qu'on appelait voilà, le
le
paradigme
lien
du
de
travail moderne.
Subordination, voilà.
C'est-à-dire un management par le contrôle, un management par la défiance. Et malheureusement, ça s'observe encore énormément.
Et là, c'est facilité par les outils, puisqu'on voit dans le télétravail qu'il y a même les entreprises ont des logiciels qui permettent donc de contrôler. Donc, les outils facilitent le contrôle. Et l'humain?
Alors, il y a toujours eu hein, des outils pour contrôler les travailleurs. Hein. Il y a eu la pointeuse jadis dans les usines. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des outils qui ne sont pas forcément des outils de contrôle, mais qui peuvent être utilisés, qui peuvent être détournés à cet usage, notamment des logiciels pour pouvoir collaborer en ligne. Donc, c'est assez facile de voir qui est en ligne, qui n'est pas en ligne, par exemple. Hein, vous n'avez pas besoin de mettre un outil de contrôle à proprement parler pour contrôler vos collaborateurs. Vous avez juste à voir si finalement ils sont en ligne ou pas avec le télétravail, lorsqu'ils sont en télétravail. Chose qu'on finalement on ne peut pas vraiment faire lorsqu'ils sont en présentiel, parce qu'on du coup, comme ils sont en présentiel, ils n'utilisent pas forcément ces outils de collaboration en ligne.
Alors, vous citez de nouveaux emplois. Bon, il y a toute l'organisation, mais vous citez de nouveaux emplois. Alors moi, j'arrive pas à dire des métiers, et vous développez les influenceurs. Enfin, moi, je trouve que ça pose la question du sens, de l'utilité sociale de ce qu'on fait, et puis du coup de son identité professionnelle aussi, quand même.
Alors, les influenceurs, souvent, sont des auto-entrepreneurs. Donc, ils ne sont pas dans une situation d'emploi. À savoir, est-ce que être influenceur, c'est un métier? Bon, alors je pense qu'on pourrait débattre là-dessus pendant longtemps, mais ça renvoie quand même à des compétences, à des productions bien identifiées, à un savoir-faire. Maintenant, même si on qualifie cette activité-là de métier, ça ne nous empêche pas d'avoir un regard critique sur cette activité. Et effectivement, alors ça a déjà été... ça a été déjà dit à plusieurs reprises, mais effectivement, on peut avoir un regard assez sévère sur les influenceurs, sur la vacuité de en tout cas pour certains d'entre eux, hein, de ce qu'ils font, sur les répercussions de leurs activités sur les plus jeunes, hein, et les dangers que ça peut représenter pour les plus jeunes et les plus fragiles. L'un n'empêche pas l'autre, en fait.
Et alors, surtout... ce qu'on n'abordera pas, parce que bon, ce serait une autre émission, mais l'impact environnemental du numérique, alors que ben, les métiers, les emplois, plutôt, sont maintenant organisés très, très majoritairement avec du numérique.
Oui, tout à fait, le numérique a un impact. Alors, c'est un impact qui est assez difficilement mesurable. Les experts ne sont pas vraiment d'accord sur l'importance de l'impact du numérique, mais en même temps, si on ne télétravaille pas, parce que c'est peut-être de ça dont on parle, si on ne télétravaille pas, on utilise en général sa voiture pour se rendre au travail. Donc on utilise sa voiture. Donc l'un dans l'autre, c'est assez compliqué. C'est une équation qui est assez compliquée de savoir est-ce que le télétravail est plus sobre en matière de consommation d'énergie que le travail en présentiel.
Alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est aussi par rapport à ce que l'on produit. On se pose la question, c'est Jean-Marie Arribé qui dit on devrait réfléchir pour préserver la planète, de partir des besoins. Est-ce que ce serait une autre approche du travail et qui permettrait de concilier cette recherche de sens avec ce que l'on produit qui a une utilité sociale?
Alors c'est une belle idée, mais alors on a un gros problème, c'est que notre économie est capitaliste. Et le capitalisme repose avant tout sur le désir, pas sur les besoins. Hein, c'est-à-dire que le capitalisme exige une création constante de désirs hein, qui deviennent ensuite des besoins à satisfaire. Et ces désirs sont et doivent être dans la logique du capitalisme en fait, hein, doivent être illimités. Voyez. Donc si on s'arrête uniquement à nos besoins physiologiques, disons, eh bien très rapidement on met toute l'économie par terre en fait. Donc pourquoi pas, mais il faut bien comprendre les conséquences que ça aurait pour la société.
En fait, il ne faudrait pas prendre le problème par là, mais le problème de prendre le problème sur toute l'autre organisation de la société, de la financiarisation, tout ça, pour pouvoir après dire on rentre dans cette approche-là.
Ben oui, parce que la financiarisation de l'économie signifie que les entreprises sont toujours en quête de croissance économique.
C'est pour ça qu'on parle de l'offre, alors qu'il serait beaucoup plus judicieux, logique, et puis au niveau environnemental aussi, de partir de la demande. Or, on ne part que de l'offre, et quand on a une approche économiste, c'est la politique de l'offre plutôt que la politique de la demande qui est en jeu.
Oui, tout à fait. C'est un petit peu, j'ai envie de dire que faudrait peut-être un petit peu nuancer ça. C'est les deux, hein, c'est-à-dire que l'offre doit aussi susciter la demande, toujours. Et d'un autre côté, les entreprises aussi répondent à la demande des consommateurs.
Oui, mais on a créé la demande.
Mais on crée la demande. Mais encore une fois, je répète, oui. Dans une économie capitaliste, il faut créer la demande. C'est vraiment à la base. Parce que le capitalisme, c'est quoi? C'est la création illimitée, création et l'accumulation illimitée de richesses. Donc à partir de ce moment-là, il peut y avoir que création et accumulation illimitée de richesses que si en face, il y a des consommateurs. Donc, il faut pouvoir créer sans cesse cette demande, hein, et notamment en jouant sur les désirs. Et là, c'est bien pratique parce que les désirs sont illimités.
Alors ces nouvelles organisations, dans ce que j'ai lu, elles auraient plutôt tendance à renforcer les inégalités femmes-hommes. Parce que quand on regardait, il y a une étude sur le télétravail qui montre qu'en fait, la femme, elle fait les tâches ménagères en même temps que son télétravail, chose qui n'est pas demandée à un homme. L'homme, il est télétravail, il est... Et ça, c'est aussi sans doute un souci quand même. Une question à se poser quand même.
Oui, oui, tout à fait. Alors, est-ce que le télétravail renforce les inégalités ? Je ne suis pas sûr qu'il faille poser le problème dans ce sens. En revanche, c'est que le télétravail, à nouveau, révèle surtout des inégalités qui étaient déjà là avant le télétravail. Mmh. Vous voyez, c'est surtout ça, c'est que le télétravail permet de révéler des inégalités qu'on connaissait déjà, malheureusement, hein, mais des inégalités qui étaient déjà là qui se manifestent et qui deviennent encore plus avec le télétravail, parfois, et qui deviennent surtout visibles, encore plus visibles avec le télétravail. Mais le fait que les tâches ménagères incombent davantage aux femmes qu'aux hommes, malheureusement, c'est une inégalité qui n'est pas récente et qui ne date pas du télétravail.
Non, mais sur le temps, elle est renforcée par le temps de la journée, l'organisation du temps sur la journée entre le travail et les tâches ménagères. Du coup, ce que j'ai lu, c'est complètement mêlé et ça renforce effectivement ce poids des tâches ménagères sur les femmes.
Oui, surtout, c'est de ce fait, le fait que les gens travaillent de chez eux et que c'est aux femmes de faire les tâches ménagères, eh ben, ça pénalise les femmes dans leur carrière professionnelle.
Hein, ça
surtout
aussi,
surtout si
question,
ça s'installe
oui.
dans le temps.
Mmh. Aussi, que effectivement, dans ce que j'ai vu aussi, le télétravail a un impact aussi sur les évolutions de carrière et plus particulièrement des femmes. Là encore, on retrouve cette inégalité femmes-hommes. Le manager, il va favoriser celui qu'il a en face plutôt que celui qui est en télétravail chez lui. Or, les femmes auront tendance à prendre télétravail le mercredi, par exemple. Et donc ça, effectivement, c'est ce qu'on dénonce aussi, un impact négatif sur les évolutions de carrière.
Là aussi, hein, je crois que ce n'est pas la faute du télétravail. C'est que tout simplement, c'est à nouveau des comportements, des habitudes qui se reproduisent dans le contexte du télétravail, voyez. Mais le travail, je ne crois pas que le travail crée ce genre d'inégalités. En revanche, peut les renforcer, peut rendre ces inégalités plus visibles. Il y a peut-être une inégalité qui est apparue avec le télétravail, c'est l'accès à un environnement de travail, tout simplement. Mmh. Ça, bien évidemment, lorsque vous avez accès à un bureau, vous avez accès aux ressources de l'entreprise. Donc là, bon, bah, vous avez des conditions de travail qui sont les mêmes pour tout le monde. Alors que lorsque vous travaillez à la maison, eh bien là, il y a celles et ceux qui ont un bureau ou en tout cas un espace dans le domicile qui est dédié au travail, et celles et ceux qui doivent bricoler et travailler sur un bout de table, sur un bout de table de cuisine, sur la table du salon. Pire encore, on a vu des cas où les gens devaient travailler sur leur lit. Et là, pour le coup, le télétravail peut créer une vraie inégalité.
C'est pour ça qu'on s'est été mobilisés, bon, je parlerai d'Antibes, pour créer juste des espaces de coworking, et surtout en pensant aux femmes, qu'il y ait un temps et un lieu où elles puissent quand même s'isoler pour travailler. Et là, bon, on n'a pas été entendu, mais bon, voilà, c'était en travaillant justement, enfin, en rencontrant, en échangeant avec des femmes en télétravail et avec les enfants à la maison, il y avait ce besoin d'avoir un lieu qui soit plus calme, plus isolé, plus tranquille pour travailler. Chose qui ne se soulève pas pour les hommes. Les hommes, ils s'isolent même dans la chambre, mais ils arrivent à s'isoler. C'est plus difficile pour une femme.
Oui, parce que ça s'inscrit dans des dynamiques sociales qui sont profondément ancrées dans la société, où finalement on considère que le travail de l'homme est plus important que celui de la femme. En télétravail ou pas, si on ne change pas ça, si on ne change pas cette habitude qui est profondément ancrée, cette culture qui est profondément ancrée, on ne pourra pas mettre fin à cette inégalité.
Alors là, il y a l'autre inégalité qui est l'inégalité de diplôme, je dirais, parce qu'on va quand même, par ces organisations-là plus flexibles, plus expressives, laisser encore plus de côté ben, les non-diplômés, ce qu'on appelait dans le temps les bas niveaux de qualification, je ne sais pas si on dit toujours comme ça, voilà, toutes ces personnes-là qui du coup trouvent plusieurs places dans la société, enfin, ont plus de mal à trouver leur place dans la société.
Alors ce qu'on observe, c'est une bipolarisation du monde du travail, avec effectivement d'un côté des personnes très très qualifiées qui sont grosso modo hein, dans l'économie de service et de la connaissance, qui peuvent travailler à la maison, etc. etc. Et de l'autre côté, des personnes qui ne peuvent pas télétravailler parce qu'ils ont besoin d'outils. C'est l'artisan qui a besoin de ces outils qui sont dans son atelier. C'est l'ouvrier qui travaille dans une usine. Ou alors, tout simplement, c'est le vendeur, la vendeuse qui travaille dans un magasin. Et donc, là, on voit effectivement apparaître au sein du monde du travail deux catégories, celles et ceux qui peuvent rester à la maison plusieurs jours par semaine, télétravailler, et celles et ceux qui n'ont pas le choix, en fait. Hein? Et là, peut-être aussi que ça crée une nouvelle forme d'inégalité.
Oui, celles qui peuvent gérer leur temps et celles qui ne peuvent pas gérer
exactement,
leur temps, en fait,
exactement.
C'est ça.
Et du coup, peut-être celles et ceux qui vont pouvoir aller faire un peu de sport dans la journée et celles et ceux qui ne peuvent pas, etc., etc.
Alors, est-ce qu'il est possible de dégager des perspectives dans l'avenir, là, par rapport à la place du travail, puisqu'on dit que les questions qui ont été posées par le confinement, tout ça, c'était la place du travail dans sa vie, puisqu'au début, je disais qu'il n'y a plus que 21% des personnes qui disent que c'est important. Donc, est-ce qu'on peut dégager des perspectives qui permettent de la place du travail, du rôle du travail, et puis des loisirs, la nouvelle organisation des temps avec du temps de loisir aussi, qui est toujours une perspective, je dirais heureuse, enfin façon de parler, quoi, mais qui soit moins inégalitaire et qui permette de s'y retrouver et de récupérer, j'allais dire, tous ces gens qui décrochent parce qu'ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien dans le travail, ils ne sont pas bien dans ce qu'on leur propose.
Je crois qu'on vit une époque qui, pour ça, est intéressante. On a une vraie opportunité, là. Avec, c'est malheureusement, hein, c'est peut-être le côté positif de ces crises auxquelles on doit faire face. Hein, et c'est des crises, on l'a dit, climatiques, sociales, et c'est aussi des évolutions technologiques importantes. Et ces trois facteurs combinés doivent nous conduire à repenser la place du travail dans notre vie et dans la société. Hein, pourquoi on se lève le matin ? Pourquoi aller travailler ? Pour qui ? Et dans quel but ? Alors certes, hein, on travaille avant tout pour gagner sa vie. Hein, quand on interroge les Français, c'est la première raison pour laquelle on travaille. Et ça, on peut bien le comprendre. Mais en même temps, on se rend bien compte que c'est pas suffisant. Et que ces enjeux auxquels on fait face nous demandent, exigent de notre part de repenser le monde du travail et de faire en sorte que le monde du travail se mettent au service hein, de la lutte contre le réchauffement climatique, de la lutte contre, on parlait des inégalités, etc., etc. Et on devrait profiter de ces crises pour repenser voilà, la place du travail. Ça me semble être à présent essentiel.
Il y a des chercheurs là qui sont sur ces pistes-là de repenser cette place du travail, de repenser tout. Le burn-out qui est en expansion, c'est quand même un signe.
Oui, c'est le signe qu'il y a encore une vraie souffrance. Hein, c'est-à-dire que même si les conditions de travail ont évolué depuis plus d'un siècle, le travail est encore majoritairement perçu comme une contrainte par les Français. Donc, ce n'est pas une activité dans laquelle les Français s'épanouissent. Donc, ça veut dire qu'on a un problème dans notre rapport au travail. Et il faut qu'on se penche là-dessus. Il faut qu'on apporte des solutions. Et je ne crois pas que ce soit uniquement des solutions d'ordre, qu'on pourrait qualifier d'ordre paramétrique. C'est-à-dire, on va passer de 35 heures à 32 heures, de 5 jours à 4 jours. Non, si un travail n'a pas de sens, qu'on l'exerce pendant 4 jours ou qu'on l'exerce pendant 5 jours, ça reste un travail qui n'a pas de sens. Et il nous faut travailler là-dessus. Comment redonner du sens au travail ? Comment faire en sorte que chaque travailleur se sente utile et que chaque travailleur puisse voir en quoi son activité contribue au bien commun ? Parce que le travail, il ne faut pas oublier que c'est notre participation directe à la société. Dans le travail, c'est quoi ? C'est une activité de transformation du monde. à travers, on transforme des données en connaissances, on transforme de la farine et de l'eau en pain, mais peu importe la transformation qui est opérée, c'est une transformation du monde. Mais maintenant, il faut lui donner un sens à cette transformation du monde. Et je crois que là, les enjeux qui se présentent devant nous sont une opportunité pour travailler sur cette question-là.
La réforme de la retraite aurait pu aborder justement ces problématiques-là, plutôt que de donner systématiquement 2 ans de plus. On voit bien que la grande majorité, ils sont contre, les Français sont contre les 2 ans de plus, parce que s'il n'y a pas de sens, 2 ans de plus, indépendamment du social et de l'économique, hein, parce que je disais, au même moment où on fait cette réforme des retraites, on demande aux gens de travailler 2 ans de plus, on réduit leurs droits au chômage, donc on va avoir, avec le gros problème de l'emploi des seniors, on va avoir 2 ans des personnes pendant 2 ans de plus au RSA, quoi. Donc ça va poser quand même un gros problème, et c'est dommage qu'on n'ait pas profité de cette réforme pour justement poser la question du sens de l'organisation de la place du travail.
Je crois que la réforme des retraites a permis quand même d'ouvrir ce débat.
Il y a un débat.
Il y a un débat qui est en cours, on le voit, les Français ont envie de discuter du travail, et c'est une très bonne chose. En revanche, ce qu'on peut regretter, c'est le fait que du côté du gouvernement, le débat a été circonscrit à uniquement, principalement en tout cas, l'âge de départ à la retraite. Là, il y a peut-être une opportunité ratée pour ouvrir un vrai dialogue sur le rôle, la place du travail, plutôt que de s'entre-déchirer sur le fait de partir à 62, alors, ou 64 ans. Alors, bien sûr, c'est important, hein, 2 ans. Hein, c'est bien sûr, c'est important, mais je crois qu'on aurait pu profiter de cette réforme des retraites pour avoir un débat sur le fond, plutôt que d'avoir un débat uniquement d'ordre paramétrique. Est-ce qu'on part à 62, est-ce qu'on part à 64, est-ce qu'on part à 63 ? D'autant plus que on sait très bien que les hypothèses sur lesquelles reposent les calculs économiques de financement de la retraite sont des hypothèses très discutables. Donc ces 64 ans sont une solution à très court terme. Très rapidement, dans quelques années, on réouvrira ce dossier-là. Et dans quelques années, il y aura à nouveau des réformes. Et les chiffres qui nous sont donnés sur l'évolution de la démographie, de la productivité, du taux de l'emploi pour 2030, 2040, 2050 sont très hypothétiques, sinon fantaisistes.
Alors je rappelle, votre livre « Pourquoi travailler ? Place et rôle du travail dans un monde en mutation » aux éditions EMS. Thomas Coutreau et Coralie Pérez, que je citais, « Redonner du sens au travail » aux éditions du Seuil. Jean-Marie Haribé, « Valorisation ou dévalorisation du travail ? Travailler plus longtemps, pourquoi faire ? À quel prix environnemental ?» Et vous avez la Fondation Jean Jaurès, où il y a beaucoup de notes sur ce thème, entre autres, où sont passées les premières et deuxièmes lignes que l'on a complètement oubliées alors qu'on les a applaudies à 20h tous les soirs. Vous vouliez rajouter ?
Alors si je devais rajouter également une référence, peut-être découvrir ou redécouvrir André Gortz,
ah ben voilà.
ce penseur du travail, ce penseur du lien social, ce penseur du commun. C'est des écrits qui datent des années 80, 90 et qui pourtant gardent encore une grande actualité et qui peuvent aussi un petit peu nous servir de guide dans cette période qui peut paraître un peu compliquée.
Merci. Donc vous pourrez réentendre Anthony le 13 avril à 21h. Merci, au revoir, à bientôt pour un autre Alter Regard.